franceinter.fr.
L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre.
Bonjour à tous. Il y a tout juste 77 ans, le 18 juin 1940, Charles de Gaulle lançait son célèbre appel. Considéré comme l'acte fondateur de la résistance, mais diffusé à 22h sur des ondes que les Français n'avaient pas vraiment l'habitude d'écouter, cet appel n'a eu son plein retentissement que les jours suivants, relayé par quelques journaux et un bouche-à-oreille efficace. L'appel de Gaulle, destiné avant tout aux militaires, provoque chez certains, encore peu nombreux, une sorte de déclic. Ils prennent la direction de Londres pour se mettre à la disposition de ces forces françaises libres. Très vite, le général se rend compte qu'il lui faut fédérer ces nouveaux combattants. Surtout, afin d'exister politiquement face à ses alliés anglo-saxons, il doit poser des actes le mettant au niveau de chef du gouvernement. D'où la création par ordonnance, signée dès le 16 novembre 1940, de l'Ordre de la Libération. En 1940 donc, de Gaulle souhaite distinguer les personnes ou les collectivités, militaires et civiles, qui se seront signalées dans l'œuvre de la libération de la France. L'ordre ne comprend qu'un seul grade, celui de compagnon, et le fondateur en sera le seul grand maître. Aujourd'hui, il ne reste que 11 compagnons vivants, tous âgés de plus de 97 ans. Recueillis par Stéphane Combe, les témoignages, toujours lucides et émouvants de ces héros, n'en sont que plus précieux et, vous allez l'entendre, toujours enrichissants pour qui prend le temps de les écouter.
Interception, le magazine de la rédaction.
Der Kerl von dem anonymen Brief wird eingeliefert.
Lassen Sie ihn reinbringen. À quelle organisation appartenez-vous?
Je ne vois pas de quoi vous voulez parler.
Vous savez ce que vous risquez? Être fusillé sous un fourneau et que jamais personne ne sache ce que vous êtes devenu.
Parce que deux des bourreaux de la France ont été abattus à Nantes et à Bordeaux par quelques courageux garçons, l'ennemi prend au hasard à Paris, à Lille, à Strasbourg 100, 200, 300 Français et les massacres. Il est absolument normal et il est absolument justifié que les Allemands soient tués par les Français. Or, actuellement, la consigne que je donne pour le territoire occupé, c'est de ne pas y tuer d'Allemands. Cela pour une seule, mais très bonne raison. C'est qu'il est en ce moment trop facile à l'ennemi de riposter par le massacre de nos combattants et de nos combattantes, momentanément désarmés. La France, avec nous!
Monsieur, je suis le général Baptiste, le délégué national de l'Ordre de Libération. Je suis accompagné par Madame Tessier, qui est guide au monument du Mont Valérien. Au monument, Madame, le nom exact de ce monument-là.
Alors là, en bas, vous êtes devant le mémorial de la France combattante, en ce Mont Valérien, au lieu de mémoire nationale.
Voilà. Et ce qui est très émouvant, vous voyez bien, nous sommes tous les deux ensemble, là, devant ce mur, c'est que vous, comme moi, nous savons que derrière, nous sommes en train de nous diriger. Eh bien, il y a cette clairière des fusils.
Tout à fait, vous allez pouvoir me suivre, on va monter à la clairière.
Donc nous allons traverser clairement le monument.
Donc à l'intérieur de cette immense forteresse.
D'après les connaissances que nous avons dans les recherches historiques, c'est 1008 personnes qui ont été fusillés ici. C'est de la représaille pure et dure qui est faite pour effrayer, puisqu'ils sont innocents de tout, sauf d'avoir été là au mauvais endroit au mauvais moment.
Donc c'est un outil quand même, le Mont Valérien est un outil de répression nazie. Donc ces otages sortiront des prisons comme Fresnes, Santé, Cherche-Midi, Romainville surtout, et viendront au Mont Valérien pour y être fusillés. Donc un tiers en tant qu'otage, donc 80% d'entre eux sont communistes, et il fusille à partir de 16 ans, le plus jeune à 16 ans et 10 mois.
Je pense à deux compagnons de la Libération qui sont fusillés ensemble, Honoré Siendorf et puis M. Yann Norik. Il y a une affiche qui est placardée. Évidemment, ici, ils sont fusillés là et ça ne se sait pas, mais du coup, les Allemands vont le faire savoir de manière à dire « Attends, ce sont parmi les premiers fusillés, n'est-ce pas ?» Et on leur dit « Attention, ben voilà, c'est le destin funeste qui attend ceux qui s'élèvent contre nous. Sachez-le, on fusille, on condamne et on fusille. »
Le groupe Manouchian a été exécuté ici,
oui,
même.
Le 21 février 1944.
Accueilli par le chancelier de l'Ordre de la Libération, le général de Gaulle arrive au Mont-Valérien et par l'allée centrale se dirige vers le mémorial de la France combattante pour commémorer l'appel qu'il lança le 18 juin 1940 sur les ondes de la BBC. Au sommet des marches, de part et d'autre de la flamme du souvenir, les compagnons de la Libération. Le président de la République pénètre dans la crypte où, recouvert d'un drapeau tricolore, sont en demi-cercle disposés les 16 cercueils.
C'est un endroit extrêmement qui, avec ou sans impressionnant uniforme, parce que nous sommes dans la pénombre. Et puis nous avons ces cénotaphes qui sont les représentations de ces 16 cercueils. Vous avez des hommes, vous avez deux femmes, vous avez des personnes issues de la résistance intérieure, vous avez des personnes issues des forces françaises libres, vous avez des civils, vous avez des militaires, des soldats d'origine de nos anciennes colonies, comme marocains, comme tchadiens. Alors, ce sont des cénotaphes qui sont là, donc des représentations, mais il y a une crypte sous ces cénotaphes où reposent réellement ces 16 personnes, et il y en a une 17e qui est attendue pour être au milieu d'elles. C'est le dernier compagnon, puisque c'est ainsi que l'a voulu le général de Gaulle.
British and free French troops are drawn up during a notable civic and military occasion when the mayor, on behalf of the citizens of Leicester, presents a regimental colour to General Petit, chief of staff of the free French forces.
C'est moi, Churchill, qui vous parle. Français, armez vos cœurs à neuf avant qu'il ne soit trop tard. Rassemblez vos forces pour l'aube, car l'aube viendra, elle se lèvera. Brillante pour les braves, douce pour les fidèles qui auront souffert, glorieuse sur les tombeaux des héros. Vive la France!
Il s'agit d'un vol de calibration de station de radar. Voici. À partir de la côte anglaise, je prends quelques 140 degrés, ce qui m'amène droit sur Bourget. Puis là, je file en ligne droite sur Saint-Omer.
Je suis Claude Raoul Duval, je vais bientôt avoir 98 ans. Je suis un ancien pilote du groupe de chasse Alsace des Forces Françaises Libres, qui était rattaché à la Royal Air Force. Mon père avait entendu l'appel du général de Gaulle, m'avait donné l'information, et comme l'Angleterre continuait la lutte, j'ai décidé de rejoindre ceux qui continuaient à combattre. Mon premier combat personnel, au début 43, il se trouve qu'on était en opération du côté du Havre et un groupe d'avions allemands de Messerschmitt nous est tombé dessus. J'étais abattu à ce moment-là par un Messerschmitt et moi je sautais en parachute. Le seul avion que j'ai vu de proche, c'est celui qui était derrière moi qui m'a tiré dessus. J'aurais peut-être dû engager le combat. Mais je me dis, je ne serais peut-être pas vivant pour venir le raconter. Vraiment le saut en terre inconnue, parce que j'ai sauté au-dessus des bois du château, j'étais donc au-dessus d'une petite forêt, et je me disais, maintenant il faut que tu tires de là, que tu ne sois pas fait prisonnier. J'ai atterri sur le haut d'un arbre, ce qui fait que j'ai sauté en parachute sans jamais toucher le sol. À la fin, je me détache, je tombe par terre, et avec mon parachute qui était au haut de l'arbre m'a sauvé, parce que les Allemands qui étaient pas très loin, ils étaient fascinés par parachute qui coiffait l'arbre, mais n'ont pas pensé à regarder par terre. Mais moi, je suis passé entre eux, entre les rangées d'Allemands, à quatre pattes. Une fois que j'ai eu passé la rangée, j'étais plutôt tranquille. J'ai donc marché dans le bois pendant un certain temps. J'ai trouvé un paysan qui coupait du bois. Je lui ai demandé, est-ce que vous pouvez m'aider ? Alors, il arrête de couper, il me regarde, et il me dit cette phrase extraordinaire. Il me dit, j'étais prisonnier en 14-18, c'était prisonnier à cette guerre-ci, ils t'auront pas. Et ce premier contact était très important parce que on savait très bien qu'on pouvait très bien être remis aux Allemands parce que ceux qui remettaient des alliés aux soldats allemands avaient des récompenses. Donc il y avait un risque très important de tomber sur un... Et lui, il avait été décidé à me sauver. Et donc il m'a pris en charge à ce moment-là.
Pendant ces 6 mois, vous êtes en France, Claude Raoul Duval, après avoir été abattu par un avion allemand. Vous avez vu vos parents, vous avez vu votre famille?
Oui, oui. Enfin, juin, début juillet, je suis allé à Paris, j'ai rejoint mon père. Et effectivement, il était dans un endroit très, très tranquille, Faubourg Saint-Honoré. J'étais au numéro 41 et au numéro 39 à côté. C'était le quartier général de Luftwaffe à Paris. Par conséquent, en sortant de chez mon père, j'ai été entouré d'officiers supérieurs de la Luftwaffe. J'étais très tranquille.
Est-ce qu'il y a un souvenir particulier qui, tous les jours, revient ?
Non, la seule chose qui me revient de temps en temps, c'est les liaisons avec mon père. Parce qu'en juin 40, lorsque je suis parti en Angleterre, c'est lui qui m'a conduit en voiture jusqu'au Verdon pour prendre un bateau. Il m'a donné une chevalière que j'ai portée. Quand j'étais abattu en France, je me fais rapporter ma chevalière pour qu'il m'identifie. Et il m'a mis en contact les réseaux de résistance, de rapatriement d'aviateurs, et échapper aux Allemands et rejoindre mon unité. C'est la seule chose qui m'a suivi et qui me suit encore aujourd'hui, c'est tous mes camarades que j'ai perdus. Ils ont tous été descendus. Aussi bien en Égypte, où il y a eu mes camarades qui ont été descendus. Beaucoup de ces garçons qui étaient en Égypte sont partis au groupe Normandie, Niémen, en Russie. Ce qui fait qu'à la fin de la guerre, je trouvais que la plupart de mes camarades étaient morts. Donc la notion d'ancien combattant victorieux et glorieux, j'y pensais pas beaucoup.
Du programme, les Français parlent aux Français. Nous vous donnerons des nouvelles de la guerre en Russie, au nord et au nord-ouest de Novo-Sokolniki. L'armée rouge a occupé plus de 80 localités. Les Russes viennent de décorer des officiers français du groupe Normandie. Ont été décorés de l'ordre de la bannière rouge. Le sous-lieutenant Marcel Albert. Le lieutenant Didier Maurice Béguin. Le sous-lieutenant Léon Barbier, l'aspirant Maurice Thon, le lieutenant Léon. Léon.
Des invalides, voilà, exactement, les invalides. Et nous, ce matin, on va parler de...
Très bien.
Ici, on est donc au musée de l'Ordre de la Libération. C'est un ordre national, le deuxième ordre national français. C'est une décoration qui a été créée par le général de Gaulle pendant la Seconde Guerre, le 16 novembre 1940.
L'Ordre de la Libération est un espace muséographique et aussi une chancellerie. Vladimir Trouplin en est le conservateur. Il nous en explique les caractéristiques.
Bonjour. Voilà, on descend les escaliers qui amènent au rez-de-chaussée du musée, où se trouve en face l'intégralité des visages des 1038 compagnons de la Libération. Sur un grand mur de photos, où ils sont représentés par ordre alphabétique. Et vous notez que certains de ces visages sont représentés par des silhouettes, parce que dans le cas de 20 compagnons de la Libération, on ne connaît pas leur visage. On n'a jamais retrouvé de photographie d'eux, en dépit de toutes les recherches qu'on a pu faire. Donc il y a ces silhouettes un peu en forme de point d'interrogation, qui peut-être un jour seront comblées par une photographie.
La plupart des personnes qui sont sur ces murs ont reçu la croix de la Libération, la médaille de la Libération. Est-ce que c'était important pour eux ?
Au départ, ça les fait un peu rigoler. D'autant plus que les gens qui avaient rejoint De Gaulle n'étaient pas partis pour des médailles. Ils avaient pas mal de critiques à l'égard de l'ancienne armée française de la Troisième République et ils voulaient vraiment pas lui ressembler. Et c'est finalement avec le temps, quand ils se sont aperçus que cette décoration venait vraiment récompenser des mérites très importants et qu'elle était très rare, voire rarissime, qu'à leurs yeux, je crois, elle a pris une véritable importance, une véritable hauteur.
Est-ce qu'il y a certains compagnons de la Libération qui peut-être ne mériteraient pas d'être sur ces murs, peut-être pour des faits postérieurs à la Seconde Guerre mondiale ?
Écoutez, il y a eu des mesures qui ont été prises à l'encontre de certains compagnons de la Libération, et en particulier pour l'affaire d'Algérie, dont vous savez qu'elle a été un traumatisme, en particulier au sein de l'armée française, et dans les milieux anciens combattants aussi. Et un certain nombre de compagnons ont été suspendus, temporairement ou à long terme, pour activité en particulier du côté de l'OAS. Voilà. Mais ils n'ont jamais été destitués de leur titre de compagnon de la Libération. Je vous donne l'exemple de Georges Bidault. Georges Bidault, qui a été très engagé auprès de l'OAS, qui est un chef de l'OAS, a renvoyé au président de la République à l'époque l'intégralité de ses décorations, sauf sa croix de compagnon de la libération.
Je vois essentiellement des hommes.
Oui, ça c'est une des particularités de l'ordre de la libération qui peut aujourd'hui choquer, très naturellement. Il n'y a que 6 femmes compagnons de la libération. Il y a tout un faisceau d'explications sur cette très très faible représentation des femmes, dont on sait qu'elles ont joué un rôle très important dans la résistance française et que leur nombre est sans doute aux alentours de 25 à 30% selon les cas, les réseaux, les mouvements. C'est parce que la société de l'époque était une société dans laquelle la femme avait une place de sous-citoyenne. Elle était une mineure civile et elle était aussi une mineure civique. Et c'est malheureusement le fait qu'on n'ait pas proposé de femme pour recevoir la Croix de la Libération qui fait qu'il y en a eu si peu. On a proposé en tout et pour tout que 9 femmes pour être faites compagnons de la Libération. Et sur les 9, 6 ont été retenues, ce qui est un taux finalement tout à fait important. Mais ça montre bien que les hommes ne proposaient pas les femmes à l'époque pour les décorations.
Installez-vous devant également, n'hésitez pas. Alors, tout le monde est rentré ? Alors, on passe dans la résistance intérieure. Donc, les résistants dans la clandestinité.
Des visites scolaires sont régulièrement organisées. À ces occasions, d'anciens résistants viennent témoigner de leur action pendant la guerre. Des témoignages de plus en plus rares, mais nécessaires, exceptionnels, souvent émouvants. Clémence Burgard est médaillée de la résistance. Elle a aujourd'hui 94 ans. Et chaque semaine, elle vient à la rencontre des collégiens et explique les raisons de son engagement.
On est devant la vitrine du compagnon Serge Ravanel. Donc, on présente ici tous ses faux papiers. Et Madame Burgard était agent de liaison pour Serge Ravanel.
Entre autres, oui. Oui, oui.
Qu'est-ce qu'on voit dans cette vitrine ?
On voit la plupart du temps ses faux papiers. Parce qu'il a été arrêté 3 fois, Serge. Et quand il y avait des camarades de passage ou à loger, Ravanel les amenait à la maison. On savait pas qui venait, ils savaient même pas chez qui ils étaient. Mais ça, c'était la clandestinité. Il fallait pas savoir chez qui on était et qui on recevait.
Clémence Burgard, vous êtes rentrée dans la résistance...
Oui, mais je m'appelais Jaillet à l'époque, parce que j'étais étudiante en droit.
Et vous êtes rentrée, Clémence, à quel âge dans la résistance ?
Alors, je suis née en 23. La guerre... En 40, quand il y a eu la débâcle, mon père, qui avait fait toute la guerre de 14, qui avait établi sa Verdun, a tout de suite dit, on suit pas. Ce qu'on avait dit, c'est non. La résistance, c'est ça. On me demande toujours comment la résistance a commencé. Eh ben, elle a commencé par non. Non à l'armistice, non au gouvernement de Vichy. Ça a été notre premier acte mental. Et donc, j'étais agent de liaison pour l'Ain, la Saône-et-Loire, la Savoie et le Jura. On servait à transporter les messages, les faux papiers, éventuellement des armes. Moi, j'ai très peu transporté d'armes. Ça consistait à rencontrer d'autres résistants dans d'autres régions et à leur transmettre les ordres, enfin, ou les aides dont ils avaient besoin.
Vous étiez une jeune fille, donc...
Mais ça m'a beaucoup aidée parce que moi, j'étais en jupette et en soquette. On avait l'air encore plus jeune que ce qu'on était. Donc, on passait facilement partout. On ne se méfiait pas de nous. C'est pour ça que les agents de liaison étaient des femmes aussi.
Malgré tout, vous avez quand même été arrêtée, Clémence.
Ah ben oui, oui. Non, mais ça, sur dénonciation. Et je vois place des terreaux.
À Lyon.
Donc, à Lyon, oui. Deux Citroën noirs qui s'arrêtent. Bon, j'ai tout de suite compris. Et des gars, on voit ça dans les films, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors des gars qui vous sautent dessus comme ça, c'est tout à fait ça dans les films. Alors j'aime autant vous dire quand je suis rentrée, qu'est-ce qu'ils m'ont mis, hein. Alors j'ai été en prison, bien sûr. Une semaine avant la libération de Montluc, nos 16 camarades qui ont été arrêtés avec nous ont été exécutés. Nous, on était promis pour la semaine suivante. La libération est arrivée, on est sortis. Vous voyez la chance. Quand je suis revenue, donc on sort de Montluc, on est accueilli par les... On est libérés, c'était le soir. Et on rentre à pied, comme ça, chez nous. Et moi, j'arrive, j'ouvre la porte du magasin. Et ma maman avait les cheveux tout blancs. Ses cheveux avaient blanchi. Tellement elle avait été impressionnée par mon arrestation. Alors, quand elle m'a dit de rester avec elle, ben, j'ai dit oui, parce que je voulais m'engager dans la première armée. Elle m'a dit, oh non, surtout Clémence, fais pas ça. Tu m'as trop fait peur. Du coup, je me suis pas engagée dans la première armée, ce que je voulais faire. Quand on a 20 ans, on a peur de rien. Ça vous donne une maturité extraordinaire.
Quand vous aviez 20 ans et que vous étiez dans la résistance et que vous étiez agent de liaison, est-ce que vous avez l'impression que vous étiez un peu un oiseau rare par rapport au reste de la population?
Non, ce qu'on savait, c'est qu'on était résistant dans une population qui était majoritairement vichiste. Quand le maréchal Pétain est venu à Paris au mois de mai, il a été applaudi frénétiquement.
Au mois de mai 1944.
Ça vous donne la réponse. Vous avez la réponse.
Après son entrevue historique avec le Führer chancelier, le maréchal Pétain a regagné Vichy, entouré de la respectueuse affection que lui porte tout le peuple de France. Rappelons que le grand soldat vient de nous demander de le suivre et de garder notre confiance en la France éternelle.
C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Cette politique est la mienne. C'est moi seul que l'histoire jugera.
Alors nous sommes à Cannes, à proximité de la Croisette. Aujourd'hui, le soleil brille et puis on n'est pas très très loin de la mer, de la plage. Et ce matin, nous avons rendez-vous avec Daniel Cordier, l'un des 11 derniers compagnons de la Libération. Il a été le secrétaire de Jean Moulin. Bonjour. Excusez-moi, j'ai rendez-vous avec monsieur Daniel Cordier.
Oui, vous êtes dans la bonne entrée.
Vous lui avez sonné à l'interphone?
Ah non, j'ai pas encore sonné à l'interphone parce que la porte était ouverte.
Bon, ben, vous allez lui sonner, puis comme ça, on va monter à l'étage.
Oui, bonjour monsieur, c'est Stéphane Combe de France Inter.
Oui, alors je vous ai. Vous êtes où? Vous êtes en bas?
Je suis en bas.
Non, mais en bas.
Je suis à la porte où il y a l'ascenseur.
Ah bon, alors voilà. Et c'est au sixième.
Merci.
Il n'entend pas. C'est un homme charmant.
Vous l'adorez?
Oui.
Pourquoi vous l'adorez?
Parce que c'est un grand monsieur. Qu'il est humble. Et voilà. Tout simplement.
Vous saviez que le monsieur que je vais voir dans quelques instants est l'un des derniers compagnons de la Libération?
Qui était le secrétaire de Jean Moulin. C'est pour ça que c'est un grand monsieur. Et il a toute sa tête et il parle super bien. Et quand on l'écoute, on a l'impression de lire un livre.
Bon, vous m'accompagnez?
Allez, je vous accompagne. Oui, il parle.
Tant mieux.
Oui. Vous l'avez déjà rencontré?
Non, c'est la première fois que je le rencontre.
Vous allez voir, vous allez tomber amoureux. On tombe tous amoureux de lui. Il est super. Et vous verrez la forme qu'il a pour l'âge qu'il a.
Sixième étage.
Oui. Ah, monsieur Cordier? Non, je vous laisse avec le monsieur, monsieur Cordier. J'ai dit je vous laisse avec le monsieur.
Ah, mais d'accord, non, mais je croyais qu'il était tout seul.
Non, je l'ai accompagné.
Vous êtes un ange.
Après, merci, madame.
Bonne journée.
Bonne journée à vous.
Au revoir. Vous êtes chez vous.
Bonjour, monsieur Cordier.
Bonjour, monsieur. Tout ce que vous avez enlevé. Voilà, vous avez des chaises. Ici, on se met là, mais on se met où vous voulez. Je ne sais pas. C'est une interview.
Alors là, Daniel Cordier, on est dans votre appartement.
C'est là où je vis depuis pas mal d'années. Oui, oui, c'est là. C'est la fin de ma vie, mais je suis très heureux dans cet endroit-là.
Vous avez énormément d'objets, notamment ces statues africaines, beaucoup de statues. Vous avez peu d'objets qui symbolisent la Seconde Guerre mondiale, hormis sur la bibliothèque une photo de Jean Moulin.
Ah ben ça, écoutez, c'est un être que j'admire totalement, parce que c'est l'homme, c'est par lui, je ne sais pas si je suis devenu un homme, mais c'est par lui qu'il a fait de l'enfant que j'étais, il m'a transformé, et si je suis devenu un homme, c'est à lui que je dois. Je suis obligé de vous dire mon âge, enfin vous le savez, mais j'ai 97 ans. Au fond, je crois que ma vie, c'est un exemple de liberté. Je me suis toujours senti libre et j'ai toujours été libre. Quand, à cause de la guerre, les Allemands sont arrivés, eh bien je suis parti. Et je suis parti en Angleterre pendant toute la guerre. Quand j'ai vu en 1940 que nous étions battus, je ne sais pas s'il y a un mélange, mais je me devais d'être fidèle à tous ces gens qui étaient morts en 1940 pour que la France soit libre. Et je suis parti.
Pourtant, vous, Daniel Cordier, vous étiez plutôt d'une famille catholique, royaliste, maurassienne, de droite et même plutôt d'extrême droite.
Absolument.
Comment votre mère et votre beau-père, qui étaient maurassiens, ont réagi à votre départ? Parce qu'eux sont restés en France.
Ils sont restés. Nous n'avons pas échangé de lettres pendant 4 ans. Mais, vous savez, c'est très difficile à dire parce que je ne sais pas ce qu'ont fait mon père, mon beau-père et ma mère. Nous n'avons jamais parlé de cette guerre-là et de ce que j'avais fait. Ils n'ont jamais su ce que, où j'avais été, qui j'avais combattu, que j'étais revenu en France, etc. Jamais. Et je ne sais pas, eux, ce qu'ils ont fait derrière. Je ne sais pas pourquoi.
C'était tabou.
Probablement, ils étaient pétinés. Mais je n'en sais rien. Jusqu'à leur mort, il n'y a jamais eu un mot entre nous pour savoir ce qui s'était passé pendant la guerre. C'est drôle.
Français, des officiers généraux au service d'une puissance étrangère ont refusé d'obéir à mes ordres. Généraux, officiers, sous-officiers, soldats de l'armée d'Afrique, qui ne cèdent pas à ces chefs indignes. Je vous réitère l'ordre de résister à l'agression anglo-saxonne.
Au fond, c'est difficile à expliquer, mais il y avait pour moi un devoir moral. Au fond, quand on est français, eh ben, on doit être libre. Et si on est attaqué par un pays qui veut vous occuper, eh ben, il faut se battre jusqu'à la mort contre lui.
Mais vous vouliez vous battre, Daniel Cordier, vous vouliez être un combattant. Or,
je n'ai jamais été un combattant.
Oui.
Je n'ai pas tué un Boche. Ça, c'est la honte de ma vie. Mais
vos faits de résistance, même si c'était dans une clandestinité totale, vous avez été le secrétaire de Jean Moulin durant l'occupation. Donc, c'était un travail essentiellement, j'imagine, administratif que vous aviez auprès de lui. Malgré tout, dans une situation de clandestinité, avec une épée Damoclès en permanence au-dessus de la tête, la peur vous poursuivait.
Ah oui. C'est intéressant parce que la peur, enfin une peur terrible. Hein. J'avais peur de tout, etc. Quand on a été parachuté, on avait très peur. Je voudrais vous dire qu'à cette époque, j'avais une fausse identité, des faux papiers, etc., etc. Et que, étant parachuté d'Angleterre, j'avais l'impression que tout le monde, les gens qui me regardaient dans la rue, les vieilles femmes, mais n'importe qui, dans les tramways et tout, tout le monde disait, mais appelez un flic, il arrive de Londres, il était parachuté. C'est effrayant, effrayant. Je n'ai jamais été pris. Si vous savez ça, ça c'est les miracles de la résistance. C'était...
D'autres ont été pris et torturés, ce qui a été le cas de Jean Moulin.
Écoutez, oui, mais il y a beaucoup de mes camarades radio. Mon camarade qui était père blanc et tout ça, il a été arrêté, il a été livré. C'est ça la guerre, c'est ça la résistance. Il y a un mélange dans ce mot, c'est que quand on parle de la résistance, on parle de deux résistances. La résistance, pour moi, ce sont les militaires. C'est le général de Gaulle et les militaires qui se sont engagés autour de lui et qui ont combattu jusqu'à la victoire. Les résistants, c'est autre chose. Ça ne commence pas le 18 juin 1940. Ça commence beaucoup plus tard. Il y en avait pratiquement très, très, très peu au début, pendant 2-3 ans. Vous avez très peu de résistants qui ont combattu, qui se sont engagés. C'est vrai que, heureusement qu'il y a eu des résistants, heureusement qu'ils ont pu, j'allais dire, accepter la souffrance et la mort des camps de concentration. Oui, ça fait partie de l'ensemble de la guerre. Et ce sont des éléments de la victoire, mais ce n'est pas le seul élément. Les résistants, ce n'est pas la victoire. Je suis un Français libre. Ça n'a aucun rapport. Je suis un soldat.
Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même, ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé. L'hommage d'aujourd'hui n'appelle que le chant qui va s'élever maintenant, ce chant des partisans que j'ai entendu murmurer. Écoute aujourd'hui, jeunesse de France, ce qui fut pour nous le chant du malheur.
À Bir Hakeim, des soldats français se sont battus héroïquement pour garder la possession de quelques puits. C'est que la guerre du désert n'est pas seulement une guerre contre l'ennemi, c'est aussi une lutte quotidienne contre les éléments. Tempête de sable.
Le 8 novembre 1942. La flotte alliée qui amène en Afrique du Nord les troupes et les armes de la libération prouve que le sacrifice des premiers résistants n'a pas été vain.
Nous sommes à Paris dans le 7e arrondissement, boulevard de la Tour Maubourg, aux Invalides, dans les couloirs du musée de l'Ordre de la Libération et aussi dans la chancellerie de l'Ordre de la Libération. Dans le hall d'entrée, on a cette plaque commémorative sur laquelle sont inscrits la totalité des noms des compagnons de l'Ordre de la Libération. Et sur la 5e colonne, au milieu, on peut voir le nom d'Hubert Germain. Il s'est battu dans les forces françaises libres et notamment à Bir Hakeim.
C'est l'armée d'Afrique qui monte en ligne.
Alors, dans la vitrine, vous avez un petit mot que De Gaulle a fait télégraphier à Koenig lorsqu'il était encore à Bir Hakeim. Je vais vous le lire, c'est marqué « Général Koenig, sachez et dites à vos troupes que toute la France vous regarde et que vous êtes son orgueil. »
Hubert Germain, sur votre gauche, dans cette salle, il y a une petite statue en bronze du général De Gaulle. Quand vous la voyez, quelle impression ça vous donne? Quel sentiment vous avez en 2017?
Écoutez, c'est le 15 août 44. Nous sommes presque en vue des côtes de Provence. Descendu du bateau, dans une barge de débarquement telle qu'on peut les connaître. Et comme je l'ai souvent dit, nous étions tendus comme des cordes de piano, tous les uns et les autres. Je suis avancé entraînant mes hommes, et puis tout d'un coup, le piano s'est désaccordé. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Je suis tombé à genoux et j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'avais retrouvé mon pays. Le bruit des pins, l'odeur des pins qui brûlaient quelque part, les grillons qui se demandaient ce qu'on était venu faire comme pagaille ici sur les plages. Et puis je me suis dit, il ne faut pas t'attendrir, on repart. J'ai jamais fait un pas en arrière, mais je suis devenu un homme. Et je ne reprocherai pas aux Allemands d'être venus ici et d'avoir occupé la France. Mais je dirais, c'est aux Français qui se sont couchés dans la défaite en se disant « on s'accommodera bien des Allemands ». C'est comme ça qu'à 21 ans, à peine, oui, je me suis retrouvé aspirant donc à la tête d'une section anti-char. C'est-à-dire que j'avais 5 ou 6 canons anti-char sous mes ordres, mais je n'étais qu'un gamin. Et quand vous êtes dans l'unité de tête, comme ce fut mon cas pour sortir de Bir Hakeim, il est évident qu'on était là pour ramasser les premières giclées. Quand les Allemands se sont révélés, c'était dit en moi une réaction, je dis, ça va, t'en as encore pour 2 secondes à vivre. Eh bien, je vais vous dire, c'est très long, 2 secondes.
Hubert Germain, vous quittez la France en 1940 pour la retrouver en août 1944, au moment du débarquement en Provence. Quelles sont vos impressions à ce moment-là?
Si la France en est enthousiasmée, les Français ne nous ont pas enthousiasmés.
Comment?
Eh bien, je dirais que nous avons été déçus. Nous avons été, je dirais, si j'ose dire devant l'histoire, les cocus de l'histoire. Moi, officier de Légion étrangère, avec des types qui avaient fait la guerre d'Espagne, qui avaient fait la campagne de Norvège, tous ces gens-là qui avaient fait tous les combats en Afrique, etc., avec nous, en Italie, ils se retrouvaient là. Et qu'est-ce qu'ils voyaient? Des Français qui nous regardaient rassembler notre matériel et filer vers Toulon. Tout d'un coup, on les voyait sous les petites cases en jonc, en bambou, là, en roseau. L'apéritif était sur les tables. Bravo les enfants, allez-y. Les légionnaires m'ont dit, ils viennent pas avec nous ceux-là. Ils viennent pas avec nous, regardez, ils n'ont pas encore terminé leur apéritif, peut-être qu'après on y verra plus clair. C'était des détails, si vous voulez, inouïs. Les Français, en réalité, la plupart de raconter comment ils avaient vécu, en se portant comme des faux héros. On voyait la façon dont ils avaient coopéré. Quand nous étions dans la France libre, dans le combat, le type de droite, il était là. Le coco, il y en a eu qui sont morts. J'en ai qui sont morts, qui est mort dans mes bras, là-bas, à Birakim. Bon, qu'est-ce qu'il était? Il était membre du service de protection du Parti communiste de l'époque. Les communistes de l'époque, c'était de rester chez eux en France. Lui, il était venu et il a été tué à Birakim.
La visite du général de Gaulle au Moyen-Orient, alors que les soldats de la France combattante venaient de se distinguer sur les derniers champs de bataille, prenait une émouvante signification. Dans un camp du désert, le général de Gaulle passe en revue les hommes de Bir Hakeim. Leur héroïsme rejoignant celui des hommes qui bravent chaque jour les fusillades sur le sol natal, réalise la pleine unité de la France pour la libération. C'est donc sous ce signe de la libération qu'il convenait de placer la nouvelle décoration créée pour récompenser les héros de cette lutte. Le général de Gaulle prononce la formule consacrée.
Nous vous reconnaissons comme notre compagnon.
Régiment de meurtre du Tchad, au nom du général de Gaulle.
Je suis Olivier Viviorca, professeur à l'École normale supérieure de Cachan et spécialiste de la Seconde Guerre mondiale.
En apportant aux Français des régions du sud de la France le salut du gouvernement provisoire de la République, je m'adresse d'abord aux admirables troupes des forces françaises de l'intérieur. C'est à elles. C'est à leur courage, à leur endurance, à leur intégrité que de très larges portions du sud-ouest et du sud-est de la France sont déjà débarrassées de la présence et nous sont sur le point de connaître les joies de la libération.
Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. La villa est silencieuse. L'étoile filante repassera. Le chien du jardinier pleure. La dernière heure a sonné.
Il faut bien se rappeler que ce que l'on appelle résistance doit être divisé en deux blocs. Vous avez d'une part des personnes qui restent en France, en métropole, et qui luttent sous la botte contre l'occupant. Et vous avez des individus qui décident de partir hors du pays occupé, rejoindre le général de Gaulle pour lutter en uniforme, les armes à la main. Il y a, dans une certaine mesure, une défiance entre les résistants de l'extérieur et les résistants de l'intérieur. Au fond, les résistants de l'extérieur ont assez souvent le sentiment que la résistance intérieure, c'est du bricolage. Est-ce qu'on peut gagner la guerre en distribuant un petit journal clandestin? Est-ce qu'on peut gagner la guerre en traçant des V à la craie sur les murs? Tout cela n'est pas très sérieux. Ces hommes qui se sont battus sous l'étendard de la Croix de Lorraine ont pris des risques inouïs en rejoignant Londres. On a l'impression que nous, rejoindre Londres, au fond, c'était une forme de sécurité. Non, vous risquiez de subir des représailles sur votre famille, vous risquiez de subir des représailles sur vos biens, mais leur odyssée est aujourd'hui quasiment oubliée. Qui sont les héros? Ce sont très souvent les résistants de l'intérieur. Tous les exploits, ils ont été nombreux, des Français libres, qu'il s'agisse de l'Italie, qu'il s'agisse de l'Afrique du Nord, sont quasiment oubliés. Beaucoup de Français connaissent aujourd'hui le maquis de Glières, le maquis de Vercors. Qui se souvient de la bataille du Garigliano? Elle a été victorieuse, elle a été également douloureuse, elle est totalement oubliée. Dans la mesure où vous avez très peu de compagnons de la libération, on est donc véritablement avec une toute petite élite. Hein. Vous avez quand même des dizaines de milliers de Français qui ont participé à la résistance. Et à la fin des fins, on se retrouve avec 1038 compagnons de la libération. On a donc affaire à une aristocratie de la résistance. La résistance intérieure et la France libre permettent d'oublier le régime de Vichy. Et que là, nous sommes dans une politique mémorielle qui vise à gommer cette page relativement sombre de l'histoire nationale au profit d'une mémoire beaucoup plus héroïque et héroïsée des Français durant la Seconde Guerre mondiale.
Ce mouvement de résistance, il n'est pas seulement le fait de ces formations armées dont on ne célébrera jamais assez les exploits, il est le fait de tout un peuple unanime qui, par son adhésion spontanée, sa complicité, son aide inlassable apportée aux éléments militaires, a rendu possible leur sécurité, leur déplacement et leur vie même. Oui, c'est bien l'action de tout un peuple qu'il a fallu pour provoquer leur recul et déjà la déroute de l'ennemi.
Dès que la fusillade a commencé dans le boulevard Saint-Michel, les FFI ont pris leur position de combat à l'entrée de la préfecture de police, boulevard du Palais. Nous apercevons des camions allemands brûlés même sur la place Saint-Michel devant la fontaine.
Nous sommes à Carpiquet, dans l'agglomération de Caen, et nous avons rendez-vous ce matin avec Jacques Hébert, qui est l'un des 11 derniers compagnons de la Libération. Cet ancien médecin du travail et député maire de Cherbourg s'était engagé en juin 40, à l'âge de 20 ans, dans les forces françaises libres, et il s'est notamment illustré dans la 2e DB du général Leclerc. Jacques Hébert, lorsqu'on voit votre parcours, vous avez été à Dakar, en Sierra Leone, au Cameroun, à Suez, en Palestine, en Syrie, à Beyrouth. Vous avez fait la bataille d'El El Alamein. Vous avez été en Tunisie, Casablanca, la bataille de Normandie, la libération de Paris et l'Allemagne.
Oui, oui.
Et pourtant, vous avez été 4 fois blessé durant la Seconde Guerre mondiale.
Faut pas se trouver à mauvais endroit. La balle qui te tue, en général, tu l'entends pas venir. Je crois qu'on ne croit pas qu'on va mourir et qu'on lutte. Enfin, moi, j'ai vu tous les types lutter au maximum pour ne pas mourir. Vous voyez les types qui sont engagés et puis qui reçoivent un obus qui leur éclate dans le ventre et qui sont vidés complètement.
C'est-à-dire qu'en quelque sorte, la mort devient familière.
Coutumière. Coutumière, c'est normal. Nous avons eu des chefs magnifiques. Que ce soit Koenig, que ce soit Leclerc. Je pense d'ailleurs, enfin j'ai peut-être tort de le dire, mais je pense d'ailleurs que Leclerc c'est devenu un mythe, un peu comme Jeanne d'Arc. Tout ce que nous avons fait avec lui, ça a été réussi. Ah ben, on était sûr de gagner la guerre. À partir du moment où il y a eu le débarquement en Afrique du Nord, nous étions sûrs de gagner la guerre.
Jacques Hébert, vous participez à la bataille de Normandie, à la libération de Paris. Et en 1944, comment vous percevez cette France que vous retrouvez, qui a été occupée pendant 4 ans?
D'abord, j'ai un sentiment de dégoût inimaginable à l'arrivée à Paris. Vous savez, si toi, qu'un véhicule était détruit, on m'a envoyé char détruit par les FFI.
La résistance, les forces, les FFI, s'est accaparé une victoire qui était la vôtre?
Je ne dirais rien de ça, moi je n'en ai pas vu. Je n'ai rien à dire.
Qu'est-ce que vous n'avez pas vu?
Des FFI combattants. On s'est battu à Rungis, on s'est battu des trucs comme ça. L'abstract de mon frère a été détruit, mon chauffeur a été tué. Les FFI, je n'en ai pas vu. Après, si. Après, il y avait des types qui avaient des brassards, oui. Les types qui ont fait sauter les chemins de fer, les types qui ont fait sauter les ponts de chemin de fer, les types qui ont fait sauter les ponts, les pilastres, etc., des tas de trucs comme ça. Oui, chapeau. Mais les gars qui s'habillaient en résistant, qui réquisitionnait les voitures et qui n'avait qu'une idée, c'était de faucher les bagnoles. C'était pas très beau.
Lundi soir à Paris, dans la cour d'un ministère, avec un groupe de FFI, des jeunes Parisiens qui ont fait le coup de feu pour chasser les Allemands de la capitale, un accordéoniste est installé. Il y a là des jeunes filles, deux soldats anglais en béret, qui dansent dans la cour. Et ils n'ont qu'un désir, c'est que demain ou après-demain, on les emmène pour continuer à se battre contre le Boche. À Cap. Ah, ah, oh.
petit fils de porte et dire, on va trouver maintenant un bon matin.
Il faut dire que les Français, à ce moment-là, avaient faim. À Paris, c'était effarant. Les gens avaient tous des combines pour avoir la bonne bouffe. Et puis, moi, j'étais révolutionnaire à ce moment-là. On aurait tué tout le monde. On aurait tué tout le monde parce que les gros.
Vous vouliez tuer les gros ?
Oui.
Pourquoi ?
Il y avait une telle différence entre les types qui combattaient et puis ceux qui vivaient, c'était incroyable. D'ailleurs, ça s'est senti tout le temps. Par exemple, quelques jours après, il y avait dans la famille, il y avait un mariage qui avait lieu à Lisieux. Mais nous, mon frère et moi, qui étions en ce moment-là dans les Vosges, on trouvait dégueulasse qu'ils puissent faire un gueuleton de famille avec tout un truc, avec toutes les combines des uns qui n'avaient pas celle-ci, des autres qui avaient donné telle chose, pendant que nous, on était en train de geler avec un hiver extrêmement froid. Mais des pauvres types. Des pauvres types, on vous dit, à tel endroit, bon. Sur la libération, pourquoi je me traîne à 97 ans, tous mes amis sont morts, tous les cousins sont morts, tout le monde. Je prends mon carnet d'adresse, il est mort. C'est pas rigolo.
Dernier compagnon, c'était un reportage de Stéphane Combe, prise de son Éric Damadio et Frédéric Kérou, mixage Manuel Couturier, réalisation Anne Liro, assistée de Zora Bensmaili, avec le concours de l'Institut National de l'Audiovisuel pour les Archives. À la semaine prochaine.